Laura Simoni.
Défi aujourd'hui, résumer Marcel Proust en 20 minutes. Avec Marcel Proust, les idées des philosophes, les mots des savants font leur entrée en littérature. Né à Paris en 1871, d'un père médecin hygiéniste assez connu et d'une mère israélite, Jeanne Weil, qui lui apprit, écrit-il, l'horreur du mensonge, le scrupule et surtout la beauté infinie. Peindre la vie de Marcel Proust, c'est peindre l'origine de la recherche du temps perdu. Aucun artiste, peut-être, n'a à ce point confondu sa vie avec son œuvre. Les petites filles avec lesquelles il joue enfant sur les Champs-Élysées deviendront les jeunes filles en fleurs. Les paysages de ses vacances à Illiers seront transformés en Combray. C'est au point que la réalité a adopté son nom de fiction et qu'on peut y visiter la maison de Tante Léonie, le côté de chez Swann et le côté de Guermantes. Il décrit d'abord son enfance et un intérêt précoce pour la littérature, toujours en lien chez lui avec la mémoire et le parfum des souvenirs, où survit comme une part de l'âme de la chose passée. Il rapporte un tout petit épisode des promenades du côté de mes églises. Le toit de tuiles faisait dans la mare, que le soleil rendait de nouveau réfléchissante, une marbrure rose à laquelle je n'avais encore jamais fait attention. Et voyant sur l'eau et à la face du mur un pâle sourire répondre au sourire du ciel, je m'écriais dans mon enthousiasme en brandissant mon parapluie refermé « Zut, 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 zut !» Mais en même temps, je sentis que mon devoir eût été de ne pas m'en tenir à ces mots opaques et de tâcher de voir plus clair dans mon ravissement. Un peu plus loin, il tente de fixer l'impression que lui laissent trois clochers sur le bord de la route et découvre la joie de l'écriture. « Je ne repensais jamais à cette page, écrit-il, mais à ce moment-là, quand, au coin du siège où le clocher du docteur plaçait habituellement dans un panier les volailles qu'il avait achetées au marché de Martinville, j'eus fini de l'écrire, je me trouvais si heureux, je sentais qu'elle m'avait si parfaitement débarrassé de ces clochers et de ce qu'ils cachaient derrière eux que, comme si j'avais été moi-même une poule et si je venais de pondre un œuf, je me mis à chanter à tue-tête. » Des beaux débuts d'écrivain, donc. Il entre au lycée Condorcet, fonde une petite revue littéraire et surtout commence à fréquenter les salons mondains où il piochera les principaux personnages de son œuvre. Son premier livre, Les plaisirs et les jours, passe inaperçu, bien qu'on y trouve déjà le germe de ses thèmes futurs. La femme qui ne peut pas renoncer à une soirée, même pour un moribond, les parents qui surprennent la perversité de leur fille. Ensuite, commencent les années sombres. Proust perd son père en 1903, sa mère 2 ans plus tard, et l'aggravation de son asthme le pousse à s'isoler de plus en plus. Il se barricade dans une chambre tapissée de liège et de 1910 à 1922 écrit sans interruption à la recherche du temps perdu. Le premier volume du côté de chez Swann paraît en 1913 chez Grasset à compte d'auteur. Puis vient la Première Guerre mondiale, si bien que Proust ne connaîtra la gloire qu'à partir de 1919 et mourra en 1922. Durant son agonie, il prend encore des notes pour enrichir sa description de la mort de Bergotte. Marcel Proust est absolument inclassable. S'il a inspiré de nombreux auteurs, il se distingue en revanche de tous ses prédécesseurs et des écrivains de son époque. Il se rapproche plus des philosophes, comme Bergson. Il figure dans Le Peuple Lu parce que l'origine de sa mère a été un poids dans les salons et parce qu'il a créé, avec Swann, avec Bloch, avec Rachel, la maîtresse de Saint-Loup, de beaux personnages de juifs sous l'affaire Dreyfus. Si le sujet vous intéresse, Antoine Compagnon a publié il y a 2 ans Proust du côté juif. Mais revenons à l'œuvre. La recherche n'est pas un livre, c'est un monument. Elle ne raconte pas une histoire. Elle déroule les fils du souvenir. On n'aurait pas pu rêver meilleur titre. C'est littéralement une recherche de ce temps, désormais passé, mais qui a accroché une partie de son âme dans des objets, des parfums, de brusques évocations de la mémoire involontaire. Le livre se lit du début à la fin, si on ne se laisse pas trop interrompre par les notes de bas de page, mais il se construit à partir de centres névralgiques dont le principal reste évidemment celui de la Madeleine. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de Madeleine. Mais à l'instant même où la gorge émêlée des miettes du gâteau touche à mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire. de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle ? Que signifiait-elle ? Où l'appréhender ? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête, la vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il y a éveillé, mais ne la connaît pas, et ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact à ma disposition, tout à l'heure, pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment ? Grave incertitude, toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même. Quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher ? Pas seulement, créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. L'esprit doit créer. Il va pouvoir faire rejaillir, de ses miettes de madeleine trempées dans le thé, l'atmosphère d'une jeunesse révolue, aux promenades partagées entre le côté de chez Swann et le côté de Guermantes. Alors, commençons par une petite pause musicale. Je vous laisse inventer votre petite phrase de Vinteuil. Et tout de suite, vous reconnaîtrez...
Sur la joue, je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers, et pourtant j'y paierai cher pour revivre un seul instant, le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. On oublie, et puis un jour il suffit d'un parfum. De matin, et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin.
Et justement, replongeons dans la recherche du temps perdu, n'abandonnons pas si vite notre petite Madeleine. Proust se demande, arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, ce souvenir, l'instant ancien que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi ? Je ne sais. Maintenant je ne sens plus rien, Il est arrêté, redescendu peut-être. Qui sait s'il remontera jamais de sa nuit. 10 fois il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois, la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, m'a conseillé de laisser cela, de boire mon thé en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain qui se laissent remâcher sans peine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin, à Combray, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis sans en manger sur les tablettes des pâtissiers leur image, avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. L'édifice immense du souvenir. C'est bien le but de l'œuvre de Proust, chercher, en archéologue, à faire ressurgir l'édifice immense du souvenir dans ses moindres détails, ses plus légères nuances. Il ne s'agit pas de retrouver une réalité passée, mais bien de créer, de séparer cet élément si fuyant qu'est le temps perdu. La réalité chez Proust est tout entière tissée d'illusions. Pour moi, le plus bel exemple, c'est l'amour de Swann pour Odette. Où Swann voit plus ou moins qu'il s'illusionne lui-même, mais on peut voir sans savoir. Et quand le voile tombe, vous m'excuserez de révéler la fin d'un amour de Swann, deuxième partie du côté de chez Swann, mais il est déjà trop tard. Ce qui nous vaut cette conclusion à la fois tellement vraie et tellement frustrante, on ne sait pas si le narrateur est ironique, pas plus qu'on ne sait si la ville est. La fin est à apprendre par cœur. Mais tandis qu'une heure après son réveil, il donnait des indications au coiffeur pour que sa brosse ne se dérogeât pas en wagon, il repensa à son rêve. Il revit comme il les avait sentis tout près de lui, le teint pâle d'Odette, les joues trop maigres, les traits tirés, les yeux battus, tout ce que, au cours des tendresses successives qui avaient fait de son durable amour pour Odette un long oubli de l'image première qu'il avait reçue d'elle, il avait cessé de remarquer depuis les premiers temps de leur liaison, dans lesquels sans doute, pendant qu'il dormait, sa mémoire en avait été chercher la sensation exacte. Et avec cette muflerie intermittente qui reparaissait chez lui dès qu'il n'était plus malheureux et qui baissait du même coup le niveau de sa moralité, il s'écria en lui-même « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. » C'est une philosophie qui tient au détour de cette phrase. Alors plutôt que d'en faire l'exégèse, je donne la parole à Myriam Salama. Attachée de presse à Grasset, elle a donc son bureau juste à côté du portrait de Bernard Grasset, qui a accepté le premier manuscrit du côté de chez Swann il y a plus d'un siècle désormais. Et nous sommes d'ailleurs dans la maison, rue des Saints-Pères, qui n'a pas changé d'emplacement. Pour les entretiens autour de Marcel Proust, nous avons la chance de recevoir Sylvain Louradour, prospectiviste, Chief Creative Officer à 2050 Now, donc qui, une agence qui décode les tendances actuelles et futures, et puis surtout auteur d'un mémoire sur Proust, écrivain, conférencier. Bonjour Sylvain.
Bonjour Laura, merci pour l'invitation.
Nous avons la chance aujourd'hui d'être à Sciences Po, l'école dans laquelle a étudié Marcel Proust. Donc c'est une chance de pouvoir parler de lui ici aujourd'hui. Moi j'aimerais d'abord vous demander, Sylvain, dans une œuvre aussi foisonnante, aussi large que celle de Marcel Proust, vous, qu'est-ce que vous en retenez ?
Alors ce que j'en retiens, c'est justement cette tension entre d'un côté le côté vraiment gigantesque, énorme, imposant, et puis le détail, voilà, c'est vraiment comme une cathédrale, hein, la métaphore n'est pas de moi, mais l'œuvre de Proust, c'est vraiment une cathédrale au sens où on est à la fois confronté à un ensemble architectural parfait, immense, et puis des micro-détails qui sont cachés dans les petits recoins de la cathédrale.
Donc il peut se lire, se relire et on découvrira toujours oui, de nouvelles merveilles.
Exactement, donc moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai découvert Proust, là j'avance un peu sur vos questions, mais j'ai découvert Proust en Hippocagne avec une professeure qui du coup m'a fait découvrir autre chose, c'est qu'on pouvait écrire dans les livres et qu'on pouvait casser la tranche des livres, donc elle écrivait dans ses Pléiades.
Et là, c'est ce que faisait Bergotte aussi.
Oui, exactement, voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de fils qui se tissent. Et là, j'ai compris que finalement, le texte n'était pas forcément dans un livre, mais planait entre toutes les éditions papier. Et c'est pour ça que je me suis mis, bon, c'est de façon un peu fétichiste, à acheter des éditions de Proust en poche, en Pléiade, de toutes les éditions possibles, pour me dire que le texte flottait quelque part entre tous ces objets concrets.
Oui, là, c'est réellement une cathédrale. Et vous voilà. En avez combien des éditions de Proust ?
Je pense que j'en ai une douzaine de différentes de La Recherche en entier. Et puis aussi, voilà, des petits bijoux comme la première édition des Jeunes filles en fleurs, ou bien l'ancienne édition de La Pléiade en trois volumes, qui était très, très agréable à lire aussi, avant qu'on se mette à fouiller de façon érudite dans les paperolles de Proust et qu'on en sorte quatre volumes au lieu de trois.
Oui, c'est de cette année ou de l'année dernière que date la nouvelle édition de Marcel Proust. Et qu'est-ce qu'une nouvelle édition apporte à l'œuvre ?
Bah, évidemment, c'est le plaisir de l'érudit par rapport à cette lecture-là. C'est-à-dire, si on commence à bien connaître Proust et La Recherche, on a envie de pénétrer les secrets d'écriture, parce que c'est quand même un destin assez particulier que de vivre, puis de se reclure pour écrire. Voilà, d'autant plus que La Recherche était prévue pour être beaucoup plus courte, et qu'à cause ou grâce à la guerre, elle a été beaucoup rallongée. Et donc une nouvelle édition, ben voilà, c'est le plaisir d'aller dans des versions différentes. Donc par exemple de découvrir qu'à la place de la Madeleine, on aurait dû avoir une biscotte, et qu'évidemment la métaphore aurait été peut-être moins suivie, filée et galvaudée.
Mais c'est une des choses qui m'a marquée avec Marcel Proust, c'est qu'il a des fans absolus. Il y a une société des amis de Proust qui ont investi la ville d'Illiers-Combray, qui a même pris son nom de fiction dans la réalité, et qui s'occupe de préserver la maison de Tante Léonie, de rendre vivant et de faire vivre au-delà du papier l'œuvre de Proust. Vous en faites partie ?
Alors pas du tout, donc je pense que c'est très bien pour l'industrie de la Madeleine, notamment sur place, mais je pense que je ne suis pas du tout fétichiste de la personne ni de l'œuvre en fait, hein. C'est vraiment tout ce qu'elle m'apporte moi à la lecture, et puis en effet comme vous disiez, à chaque lecture c'est complètement différent, parce que moi j'ai changé, donc chaque phrase est relue de façon totalement différente, et puis aussi je pense qu'il y a un aller-retour entre ce que lui décrit de façon tellement juste et ce qu'on peut vivre dans la réalité. Donc par exemple, bon, j'ai plus la citation exacte en tête, mais le fait de se retrouver au réveil avec tout un tas de mondes possibles autour de nous et de ne pas savoir exactement dans lequel on va se projeter, ça c'est vraiment...
Chacun tient un cercle autour
de lui. Oui, c'est ça, exactement. Bah voilà, bravo Laura, vous avez la citation en tête. Et donc ça c'est quelque chose d'absolument magique, parce que c'est une sensation que nous avons toutes et tous éprouvée, confusément. Bon, moi, pour moi, Proust c'est très simple, il a mis en mots tout ce qu'on peut éprouver dans une vie de façon plus ou moins confuse.
Et dans une vie parisienne, dans une vie germano-pratine tout de même.
Alors, évidemment, le contexte est très circonscrit, dans une époque, dans un lieu. Mais enfin, je pense quand même qu'on tend une certaine universalité, puisque Proust s'intéresse principalement aux sensations.
J'étais il y a quelque temps dans une résidence d'écriture, et on a passé une soirée à se lancer des références de Proust qu'on ne savait même pas avoir. Parce que, par exemple, cette scène tout au début de La Recherche, où il dit « il est minuit, c'est l'heure où le malade qui est dans sa chambre voit passer un ray de lumière sous la porte et se dit « on va me sauver ». Non, c'est le dernier domestique qui rentre. On ne savait même pas qu'elles étaient restées en nous, toutes ces scènes, et on a commencé à les échanger. Pour vous, Proust, c'est vraiment cette étoffe du souvenir, tous ces petits cailloux blancs qui sont pour vous universels.
Oui, et surtout ce qu'on peut éprouver au cours de la vie, entre les périodes de sa vie, dans les relations aux autres, le monde, voilà. Donc moi je pense que la lecture de La Recherche, alors j'ai lu toute La Recherche, alors en fait j'ai pris prétexte d'un travail universitaire pour avoir la chance de pouvoir lire intégralement La Recherche en un été. Donc je me suis enfermé comme lui un été dans le sud, volet clos, comme un hibou.
Il y a un livre qui s'appelle Un été avec Proust.
Oui, oui, exactement. Pas de moi, hélas. Mais bon, voilà, je me suis enfermé, j'ai lu la recherche, et puis mon mémoire portait sur la lumière dans la recherche du temps perdu. Donc la lumière sous tous les plans, symboliques, esthétiques, physiques, corpusculaires, autres, etc.
La lumière des vitraux.
La lumière des vitraux, bien sûr. Voilà. Et donc c'était une époque avant les outils, avant Internet en fait. Donc j'avais relevé à la main toutes les mentions de la lumière, quelle qu'elle soit, du scintillement au flamboiement, du soleil au petit pan de mur jaune, à la main donc dans la recherche. Voilà. Donc c'était une expérience très particulière que cet été avec Proust.
Mais c'est fascinant, la lumière chez Proust, c'est Proust qui m'a fait prendre conscience aussi de l'ancienneté de la photographie, parce qu'il mentionne assez souvent la photographie avec des références quand même très contemporaines. Il parle déjà de son icône, je crois. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a cette idée de capter le temps perdu, mais qui... en tout cas, chez Proust, il m'a semblé... un côté scientifique, il utilise le vocabulaire scientifique, il est au courant des avancées scientifiques de son époque, mais qu'il va complètement s'approprier sans mystique pour dans une... J'aurais du mal à dire quel est le but de la recherche. J'ai l'impression que c'est pas de comprendre, que c'est plus d'éprouver. Pour vous, quel est, à votre avis, le sens de la recherche?
Alors ça, évidemment, c'est très compliqué de répondre. Sur l'aspect scientifique, oui, la photographie, l'avion, la physique quantique aussi, la relativité. Donc tout ça est en soit exprimé, soit en germe dans la recherche. Donc c'est quand même extraordinaire parce qu'il a écrit ce livre en captant tout ce qui pouvait se passer autour de lui. Donc c'est là où on sort du côté germano-pratin, et en le en l'écrivant, le redisant de façon hyper claire et très très affûtée. Donc c'est pour ça qu'en lisant Proust, je pense qu'on gagne des années d'expérience de vie, des années d'expérience de compréhension du monde, des personnes autour de soi, et puis des relations entre les personnes. Voilà, un peu comme en lisant Balzac, mais de façon moins feuilletonesque. Voilà. Et alors le sens de la recherche, on pense que tout est dit dans Le Temps retrouvé, qui se replie sur le premier volume. Mais je pense que ça reste quand même assez mystérieux, ce sens de la recherche, à part qu'à un moment, c'est aussi de chercher une sorte de direction intérieure. Je pense qu'on est très tourné vers l'intériorité, et que dans l'épreuve du monde par rapport à que l'on fait dans notre vie, et puis là dans cette lecture, c'est plus un sens personnel qu'on peut trouver dans cette œuvre. Et tout fait figure d'image aussi. Quand il parle de technologie, d'avion, de photos, on pourrait parler de ChatGPT ou de l'IA aujourd'hui. Enfin, et comme vous dites très bien, il n'y a pas de mystique, de légende ou de fascination du tout. Tout est intégré au même niveau dans cette expérience du monde.
Et vous, est-ce que vous avez déjà eu des madeleines, des moments où cette expérience du monde se révèle dans un détail dans lequel il est enclos?
Oui, mais quotidiennement. C'est-à-dire que comme le décrit Proust, alors évidemment dans la recherche il y a deux mémoires qui s'opposent, la mémoire volontaire, rationnelle, je veux à tout prix me souvenir de telle date parce que je sais que c'était un événement important, voilà. Et puis évidemment de l'autre côté la mémoire involontaire qui est réveillée par une sensation, et ça je pense qu'on l'éprouve vraiment tous les jours. Le fait de lire à la recherche fait que du coup on en est conscient et on éprouve plus de plaisir à éprouver cette sensation, et donc le passé qui revient comme ça, mais aussi à l'approfondir et à s'en délecter ou pas, selon évidemment le souvenir plus ou moins agréable.
Est-ce que ce serait le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui n'a pas lu Proust, de ne pas le lire pour l'amour de Swann, de ne pas le lire pour le thème de l'art, mais d'y chercher ce thème de la mémoire, de la mémoire involontaire?
Alors oui, je pense que c'est une bonne idée de conseiller quelqu'un qui n'aurait jamais lu Proust sur ce fil de la mémoire involontaire, mais aussi je conseillerais de s'y retrouver. C'est qu'à chaque détour de phrase, enfin quasiment, pas forcément, mais à chaque page en tout cas, une phrase, au détour d'une phrase, on se retrouve soi-même dans ses sensations, dans ce qu'on a éprouvé dans son enfance, dans son adolescence, à l'âge adulte, quel que soit l'âge en fait.
Et est-ce que vous avez un conseil spécifique pour les gens qui ont commencé la recherche du temps perdu et qui l'ont abandonné en cours de lecture ?
Alors ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée, parce que, bah, comme, voilà, si je connais un peu Proust, alors souvent j'ai donné comme conseil de commencer par Les jeunes filles en fleurs, et puis au fur et à mesure des années, selon mes relectures, par d'autres entrées. Mais finalement, je pense que rien ne vaut de commencer par Longtemps je me suis couché de bonheur. Un, on comprend que la légende...
Par le début.
Voilà, le début, les tout premiers mots, les 8 premiers mots. Hein, et alors pourquoi lire Proust, c'est important aussi, parce que c'est une invitation à exercer son sens critique, à casser tous les clichés. Bon, exemple, Proust fait des phrases tellement longues qu'elles sont incompréhensibles. Bon, Longtemps je me suis couché de bonheur, c'est 8 mots. Voilà.
Est-ce que vous avez un dernier conseil, un dernier mot pour conclure ?
Alors oui, c'est de lire Proust en extérieur, comme là aujourd'hui ce podcast est enregistré dans un jardin potager. Donc je pense que c'est très important de lire Proust non pas dans son lit ou au coin du feu, mais vraiment à l'extérieur l'été, pour emprisonner toutes les sensations de l'été dans ces pages-là, et ensuite quand on réouvre la recherche, eh bien tout ressurgit.
Ce qu'il faisait lui-même avant d'être appelé pour le dîner.
Exactement.
Et quelle édition est-ce que vous recommandez pour la lecture en extérieur ?
Alors une édition de poche que l'on peut soumettre à toutes les intempéries, le soleil, la pluie, l'herbe, les insectes, le café, etc.
Il n'y a plus aucune excuse, hormis le mois de novembre, pour ne pas se mettre à la lecture de la recherche du temps perdu. Merci beaucoup Sylvain Louradeau.
Merci beaucoup Laura.
Et très bonne lecture à vous.
Merci.
Le peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Siboni.